solidaire de nous tous, et en même temps parce qu'il est Dieu, produit un acte d'amour sur la croix qui dépasse toute l'humanité. Donc à la fois, par son amour infini, vient, il nous sauve, parce que cet amour infini vient compenser au-delà de ce qui est imaginable la masse de nos péchés. Et ça, c'est possible que parce que Jésus est Dieu et que tout ce qu'il fait a une valeur infinie. Et en même temps, parce qu'il est homme, ça, il est solidaire de nous tous. Et donc, cet amour infini et ce salut qu'il obtient, il peut nous le communiquer. Donc, c'est fondamental que Jésus soit vrai Dieu et vrai homme, parce que en tant que Dieu, il nous sauve, en tant qu'homme, il nous communique le salut. Je ne sais pas si c'est... C'est vrai que toutes les hérésies des premiers siècles sont terribles, parce que soit elles disent qu'il y a d'un côté Jésus, de l'autre côté le Fils, mais alors dans ce cas-là, le Fils nous sauve, mais il n'est plus notre frère, parce qu'il y aurait deux personnes à l'intérieur du même être, soit au contraire, ils vont flinguer l'une des deux natures. Donc voilà, les hérétiques vont dire Jésus n'est que Dieu, mais il n'est pas homme, donc il n'est plus notre frère, ou alors Jésus est homme, mais il n'est pas Dieu, hein, dans ce cas-là... Il ne mérite que pour un homme, même s'il est très saint. Il ne peut pas nous racheter. Il ne peut pas offrir un acte d'amour qui soit à la portée et comparable aux milliards de péchés qui sont commis par lui. Et donc, très bonne parole à 21h35, prenez garde, restez éveillés. Car vous ne savez pas quand sera le moment. C'est comme un homme parti en voyage, en quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, qui fait à chacun son travail, et demandé au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison, le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin. S'il arrive à l'improviste, il ne faudrait pas qu'il vous trouve endormi. Ce que je vous dis là, je vous dis à tous, veillez. Ça vous fait penser à quoi?
Tout le monde
dort. C'est terrible quand même. Le Christ dit ça et deux jours après, il dort moins. Et c'est vrai qu'il y a des commentateurs qui en plus soulignent que Saint Marc, qui était proche de Saint-Pierre, est le seul à mentionner au chant du coq. Le chant du coq, c'est doublement pensé à la nuit du jeudi saint, à la fois parce qu'ils sont tous endormis, ils se réveillent. Et en plus, c'est au moment du chant du coq. Saint-Pierre, là, il est réveillé dans son corps, mais il n'est pas très réveillé dans son cœur, et donc il trahit le Christ.
Vous avez vu quand même tout ce qu'il a raconté juste avant, là, ils sont tués, hein, la dernière phrase,
ils
sont déjà à la fin du monde, la fin du
jour, vous savez,
ils sont tous
affolés, même. Oui, mais ça, ils ont deux jours pour récupérer, là, quand même. Ils ont deux jours pour dormir, là.
C'est le dernier soir, là.
Oui, mais. Oui, mais c'est sûr que.
Ça l'a
abasourdi,
là, quand même.
Ça l'a abasourdi, ça. Mais ça réjouit normalement.
Eh bien, ils n'ont pas les cartes.
Normalement, la fin des temps, ça devrait être joyeux quand même. On devrait attendre le retour du Christ avec impatience et avec enthousiasme. Et c'est pour ça qu'on dit souvent dans les psaumes que le Christ monte vers l'Orient. Et le Christ, ensuite, dans l'Évangile, dit « Le Fils de l'homme viendra de la même manière dont il est parti. » C'est pour ça qu'on célèbre la messe tournée vers l'Orient. Alors, il y a d'autres symboliques, le soleil levant et ça, mais c'est aussi qu'on célèbre tourner vers le lieu où le Christ reviendra. Ça, c'est une idée que développe beaucoup Benoît XVI. Cette idée que, voilà, à chaque messe, quand on célèbre tourner vers l'Orient, on est tourné vers l'endroit, pas géographique, mais l'orientation mystique d'où le Christ reviendra. Parce que à chaque messe, on attend le retour du Christ. Et chaque messe, c'est comme une anticipation, puisque le Christ vient de se rencontre, comme une anticipation du retour du Christ.
Et le prêtre, enfant sur le fait, en sens inverse des églises du monde, pour remonter le temps.
Deuxième
bon point. Et les sorties, ils tournent toujours comme ça. Il tourne en sens inverse.
Alors pourquoi il tourne en sens inverse?
Ben, c'est toujours la même idée, c'est remonter vers l'origine du monde. Pourquoi il y a des choses comme ça, je ne sais pas. Mais alors, ça devait être un... Je ne sais pas s'ils étaient catholiques quand ils ont choisi ça.
J'espère, quand j'ai mis la messe.
Non, mais les sportifs qui
sont. Ah oui, les sportifs qui sont.
Je ne pense pas la même chose, j'en sais rien.
Après, c'est vrai qu'on tourne aussi en commençant par le côté le moins digne pour terminer par le côté le plus digne. Parce qu'en fait, le côté à droite du prêtre est le côté le moins digne.
Oui.
Parce qu'en fait, c'est pas le prêtre qui est la référence, c'est le Christ. Et donc, si vous regardez par rapport à la croix, enfin, c'est à la gauche. Le prêtre, il est face au Christ, donc pour lui, c'est à sa droite. Mais par rapport au crucifix, c'est à sa gauche. Donc la gauche est le côté moins digne, toujours dans la Bible, c'est toujours la droite est toujours valorisée. Et donc, à gauche, on lit l'Épître. Mais à droite, on lit l'Évangile.
Mm-hmm.
Et du coup, et donc, à ce côté, on pense aussi que c'est un peu ça, on commence par le moins digne pour finir par le plus digne. Mais après, il y a une question mystique aussi de remonter le temps.
Vous dites vers le nord parce que c'est des gens religieux.
Alors, ça c'est une signification mystique. Mais, parce qu'en fait, à côté évangile était aussi le trône de l'évêque. Et on lisait aussi, moi il me semble, parce que j'avais vu, mais il me semble, on lisait le dernier évangile face à l'évêque. Et après, c'est devenu effectivement. On le prie face au nord, puisque normalement donc l'hôtel est orienté à l'est, donc ouest, nord, sud, et donc effectivement il y a une signification plus mystique et spirituelle qui s'est greffée, c'est-à-dire on lit le dernier évangile face au nord, c'est-à-dire face aux régions froides, aux régions sombres, aux régions païennes longtemps, et donc pour effectivement proclamer l'évangile de la lumière, parce que c'est l'évangile de prologue de Saint Jean, la lumière a brillé, les ténèbres n'ont pas réussi à s'en saisir, donc c'est un évangile de lumière, donc on prie vers les régions sombres.
À la Madeleine, c'est
la Madeleine, tout est inversé. Ah oui, c'est sûr.
En
fait, si demain un jour, je serais à peu près le même pour tout le monde, mais pas tout à fait, mais c'est vrai que c'est embêté, si on veut dire. C'est dans quel fuseau?
La Madeleine est tournée à l'envers.
Ouais. Elle est occidentée. Mmh. Elle est tournée vers l'occident. Elle est occidentée. C'est ça qu'elle n'est pas accidentée.
Mmh. Est-ce que ce serait pas dans.
Orientée, en fait, c'est tournée vers
l'envers. Mmh.
Est-ce que ça ne s'est pas fait exprès pour tourner? Il y avait le quartier qui était déjà comme ça, le pont.
Oui, je pense.
L'ancienne église était dans le sens, je pense.
Je sais
pas. Dans la Madeleine, il y en avait une.
Si, il y avait une église du 11e, ou du 12e, c'est par Hugues de Salin, mais je ne sais pas en quel sens elle était.
J'étais dans le sens.
Je pense que c'est un peu plus.
Oui. Non, mais justement, c'est pour ça qu'on s'élève face à la croix, parce que pour que même dans les églises occidentées, on s'élève quand même face au Christ. C'est ce que dit là aussi Benoît XVI en expliquant souvent que même dans les églises occidentées, souvent dans la voûte au sud de l'autel, il y avait une représentation du Christ en gloire, ou dans les églises plus récentes, le crucifix sur l'autel, pour que même tourner vers l'Occident, c'est quand même vers l'Occident. Mm-hmm. Mais Saint-Pierre est orienté aussi. Hein.
Oui. Saint-Pierre,